gouvernement. Et ils sont obligés d'abandonner quand même ce ton populiste petit à petit, ce ton horrible quoi. Et ça leur fait perdre encore des voix au détriment du Front National. Et par exemple, aux européennes de 1984, avec la percée du FN, là, l'historique percée du FN qui fait 10, 11%, autant que le PCF, qui fait aussi 11% aux européennes de 84. Et le PCF, lui, passe très vite sous la barre des 10%. Et puis il se fait distancer par le Front National, par exemple au présidentiel de 88, où Jean-Marie Le Pen fait 15%. Et si on additionne les voix de Lajoigny et Juquin, qui était le candidat dissident du PCF au présidentiel 88, donc les deux ensemble, ils font à peine 9%. Voilà, donc c'est toute cette espèce de discours un peu puant, mais peut-être qu'ils ont adopté ce discours parce que c'était leur dernière chance, je ne sais pas, mais voilà, c'est des trucs qu'on a un petit peu oubliés hein, maintenant sur le Parti communiste français et le rôle de Georges Marchais là-dedans, qui était la descente aux enfers du Parti communiste. Bon, c'est très triste tout ça, donc je propose qu'on écoute des trucs un peu mieux. On va écouter la présentation et quelques mots entre Chirac et Marchais. Chirac, très jeune ministre à l'époque, qui essayait de percer, de un peu montrer hein, sa patte quand même. Hein. Et voilà, donc bon, on va écouter ça pour se détendre, parce que c'était tellement triste, tout ça, hein, ce petit montage que je vous ai fait. Ben oui, mais il fallait le dire quand même. Voilà, et ben Jacques Chirac, à toi. Jacques Chirac est prêt, il me fait signe qu'il peut commencer. Bon, ben allons-y.
Il y a eu Marché Chirac hein, en 70, qui était les débuts télévisés de Marché. Les débuts télévisés de Chirac.
On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
La première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter la faute.
Des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, ah, 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 je suis chômeur, ah, 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 je suis pointé, ah, 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 ok, moi.
Salut tout le monde, vous êtes toujours sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Alors on s'excuse un peu d'avoir coupé le discours de Chirac juste après la super analyse du camarade honneur du prolétariat. Mais c'est l'heure du Canu Info.
Et surtout c'était une rediffusion d'une émission que vous avez déjà entendue.
Voilà, donc et c'était l'heure du Canu Info lundi. Et donc on est content de vous retrouver et voici les titres.
Oui, et pour cette émission spéciale quand même, parce que c'est une spéciale Afrique et plus précisément France-Afrique. Donc aujourd'hui danser au son de l'Afrique et après on va pleurer au son de la France-Afrique avec nos envoyés spéciaux. On va commencer quand même par un petit journal d'information avec à l'international, on va vous parler des Oscars aux États-Unis ainsi que d'un reportage hasardeux de Fox News sur des événements en Suède. Ensuite, on passera au national avec une chronique de la fin de règne de François Hollande. Puis on ira à Nantes pour les événements de ce week-end avec les résistants à la venue de Marine Le Pen pour son meeting. Et puis on terminera avec une petite chronique aussi de ce meeting de Marine Le Pen à Nantes. En local, on commencera avec la parution d'un nouveau média à Grenoble, un nouveau média indépendant sur le modèle un peu de Rébellion et de tous ces IATA et Paris Lutte. On continuera avec un retour sur le meeting le meeting qui a lieu ce week-end avec une organisation assez mouvementée puisque les fachos s'en sont pris au meeting contre la OGRA, les violences policières, la justice, la dignité, hein, voilà. On vous en parle tout à l'heure et on va finir par parler de notre bien-aimé Uni. Voilà, on finira par le traditionnel agenda.
Abidjan, Lomé, Nigeria, Cameroun, Libreville, Brazzaville, Kinshasa. Écoutez ce super Nyama Nyama des officiers de la musique africaine, l'International Orchestre du Congo à Paris, Kodi Thomas, yeah!
Denis Lacloche vous présente son mémoire de guitare.
C'était l'International Orchestre du Congo dans les officiers attaques, place à l'actualité internationale.
Alors aux États-Unis, c'est du grand cinéma auquel on a eu le droit hier soir lors de la cérémonie des Oscars. Effectivement, c'était digne des plus grandes tragicomédies pelliculaires, voilà, sans les cheveux, en mieux, tellement ça avait l'air réel. Surtout, ce hiatus étrange sur ce qui est habituellement du papier à musique de film, cette bourde où le film La La Land est annoncé vainqueur, la petite équipe qui monte sur scène et hop, coup de cinéma, c'est pas le bon film, c'est Moonlight qui est le vrai meilleur film en fait, bon on est désolé pour le rater. On recommence, Moonlight, Oscar, Barry Jenkins, bravo, c'est donc vous le meilleur film. Alors, là où on ne pourrait voir qu'une anecdote inintéressante concernant ces cérémonies pourries, pleines de fric, de thunes, de diamants, de stars fraîches et moisies, de tous ces visages de la Dream Industry, tous ces corps publics qui vieillissent et peuplent la veillée vespérale d'une demi-humanité, ces étoiles de l'industrie du cinéma avec laquelle on grandit et qui nous produit un peu chaque jour de plus en plus, oui, là où on ne pourrait voir qu'une calambredaine, quelque chose de moins onirique se dessine et nous rappelle curieusement les quotas ethniques, les quotas de noirs à Hollywood qu'il fallait mettre dans les films et le caractère profondément politique, style plan Marshall, que revêtent ces cérémonies patriciennes qui sanctifient le bon cinéma, celui du fric, des paillettes, de la magie et surtout du bourrage de crâne. Surtout, le contraste entre La La Land, un film tout gentil, tout blanc, qui célèbre la gloire de l'institution censée juger ce même film, à savoir, bon je l'ai pas vu, hein, et je pense pas que j'aille le voir, mais grosso merdo, c'est à la gloire des bonnes années où on se faisait plaisir, hein, à la différence d'aujourd'hui, bon. Et de l'autre, Moonlight, un vrai film, hein, où apparemment c'est des pauvres.
Que t'as pas encore vu aussi, non ?
Que j'ai pas encore vu, mais peut-être que j'irai voir.
La chronique du vide, on va appeler ça.
Voilà, c'est ça. Et bon, en tout cas, c'est sur le plan symbolique assez, assez malheureux finalement que cette industrie du cinéma qui est profondément, on va dire... Non, tu veux même pas m'aider ?
Je sais pas où t'es.
En tout cas... Au dernier moment, ils ont renoncé à faire de La La Land un vrai film, c'est bien, et ils ont permis à un vrai film de monter sur scène, c'est mieux.
Dans la catégorie cinéma américain qui a déloupé, on en a eu encore eu le droit à une belle de la part, cette fois, des services de Fox News, qui est une des quelques chaînes au service de leur cher et grand maître président. Donc Fox News, pour parler de la Suède, qui a l'air d'être un grand sujet qui fascine les Américains en ce moment, a pas trouvé mieux à faire d'inviter un mec qui s'appelait Nils Bils. Bilds, B-I-L-D-T, je suis désolé pour la prononciation, et donc qui a été invité en tant que conseiller suédois en matière de défense et de sécurité nationale par le journaliste conservateur américain Bill. En fait, et donc il a invité un équivalent du 20h pour débattre, sauf que ce personnage est en fait totalement inconnu de tout le monde, qui en fait l'ensemble des services suédois ne le connaissent pas. Le gouvernement le connaît absolument pas, ne sait absolument pas qui peut être cette personne, et encore moins l'armée. Ce qui est problématique, c'est que ce sombre con a quand même balancé publiquement, en fait, expliqué que le débat politique suédois est totalement fallacieux. Il a quand même affirmé lors de son intervention que si vous n'êtes pas d'accord avec l'agenda de gauche, alors vous êtes considéré comme un outsider, vous n'êtes pas pris au sérieux. C'est un jour, on aimerait bien que ce genre de réalité arrive, mais on en est hélas encore assez loin. Et en fait, dans les faits, une enquête donc, a été faite un peu par la presse, ils se sont rendus compte que cette personne n'avait absolument, donc vraiment aucun lien avec la Suède, qu'elle n'y vivait plus depuis 1994, que ses dernières adresses connues par le gouvernement suédois étaient à Tokyo, et qu'en fait, déjà en plus, il ne s'appelait même pas comme ça en 2013, il avait carrément changé de nom de famille pour prendre le nom de famille de l'ancien premier ministre suédois, qui lui s'appelait Carl Bildt, et qui a nié absolument tout lien de parenté avec ce pseudo-espère. Et si, en fait, en recherchant, on s'est aussi rendu compte que ce pseudo-espère était très proche, en fait, de l'extrême droite, de ce qu'on appelle là-bas les démocrates de Suède, qui est en fait bon, l'extrême droite locale, et qu'il avait essayé de se faire élire sur leur liste électorale à l'époque, il y a en 2013. Donc, en fait, Fox News s'est fait plus ou moins abuser contre sa volonté, ça c'est encore à voir, par un mec qui n'a absolument, qui a pour seule et unique qualité de travailler dans la sécurité, dans l'armement, et qui s'est fait passer une fois plus par un pseudo-espère sur une pseudo-chaîne d'information.
Alors, on va passer au national, et c'est pas qu'il y a pas grand chose à dire, mais c'est plutôt que c'est un peu tout la même chose. Alors, on a décidé de braquer nos projecteurs auriculaires sur un certain François Hollande. Je sais plus si vous savez de qui il s'agit, mais c'est un type qui a été accessoirement élu président de la République en 2012. Et effectivement, sur cette fin de règne, eh bien, peut-être que dans quelques années, on aura la chance de découvrir que ses frais de bouche étaient excessivement élevés, comme feu le grabataire Chirac l'avait fait avant nous, car effectivement, Hollande, en plus de faire de magnifiques plans sur la comète pour refaire l'île de la Cité jusqu'en 2040, entre 500 et 4000 milliards, on ne sait pas trop, eh bien, a assisté dernièrement à beaucoup de banquets, des agapes super cool, du style de celle où on ne boit pas de Heineken. Et effectivement, c'est quand même intéressant.
Si on rigole, c'est parce qu'ils sont mis partout, en fait.
Ceci n'était pas une publicité, nous le rappelons.
Donc nous allons rappeler quand même quelques-unes de ses agapes où il a brillé et où sa bedaine, hein, qui a quand même oscillé tout au cours du manga entre plat, raplapla et gras souillet, eh bien ici a pu se refaire une dernière santé. Donc il a bouffé avec le CRIF et les francs-maçons le week-end dernier. Alors, vous n'êtes pas sans remarquer que franc-maçon rime avec Mélenchon, avec Hamon, avec Fillon, mais également avec Hamon, et pour finir, Le Peignon. Et le complot est évident, mais nous ne nous attarderons pas trop dessus. Par contre, pour de vrai, d'accord, Hollande, d'accord, dont le ventre n'est pas du plat pays, a quand même, sur sa chure énorme, hein, de son mandature qui nous emmène tous au bord du gouffre, au bord du désespoir, avec l'Action française qui dive dans la rue, les flics qui manifestent en armes et en uniforme dans la rue, avec le cadeau qu'il nous laisse, eh bien, faut savoir que sa dame et la roi, ça sera le permis de tuer, qui fait du flic un militaire chargé de l'ennemi intérieur, dont je fais à peu près partie.
Eh ben, comme c'est spécial Afrique et notamment France-Afrique, on était allé au Congo, là maintenant on va au Sénégal avec Super Diamono de 2 Dakar.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Et tout de suite, c'est le Canu Info.
Et oui, on va apprendre des nouvelles de notre future présidente de la République. Donc, Marine Le Pen était en meeting ce week-end à Nantes. Et donc, un meeting très, 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 très attendu, puisque sur une salle de 5000 places assises et de 9000 personnes au total, il y a eu quand même 2700 personnes, selon la presse, qui se sont déplacées pour aller écouter cette grande tribun au féminin. On ne dit pas, c'est des scandales, c'est des scandales de notre, notre langue française. Et donc, à part cette fréquentation plutôt modérée et certainement décevante pour l'appareil du FN, on a pu quand même voir que les gens, en tout cas à Nantes, ils sont assez déterminés par rapport à cette venue de Marine Le Pen. Ils ont un peu bougé le cul.
C'est la seule ville cool de France.
Ouais. Bon, on peut dire qu'en tout cas, c'est une ville cool. Donc, il y a plusieurs cars qui acheminaient les militants qui ont été attaqués, peinturlurés de haut en bas et même attaqués physiquement. Il y a eu quelques attaques physiques. Il y a eu aussi des opérations escargots.
Qu'on déplore, bien entendu, et contre lesquelles on s'est réjoui en faux avec toute notre vigueur.
Ah bon ? d'accord.
Il y a eu de la route barrée avec des opérations escargots qui ont fait des ralentissements apparemment assez importants. Il y a eu du pneu brûlé aussi pour bloquer la route. Donc, en fait, on a essayé de faire en sorte que les militants arrivent dans mauvaises conditions sur place. Et visiblement, ça a pas mal réussi. Et surtout, il y a eu une manifestation et un meeting à ciel ouvert des opposants donc, au Front National et à son monde. Et qui avait l'intelligence et la qualité et le bon goût de réunir non seulement les assemblées... Nantes révoltée, l'Assemblée à l'abordage, mais aussi les syndicalistes de la CGT, de Sud et plein d'associations diverses et variées. Ils sont assez bons, ces Nantais, et on va vous parler un peu plus du meeting de Marine Le Pen, ou peut-être pas.
Alors on va juste se moquer d'eux, parce qu'on sait bien que tous ces fachos, tous ces rachos, là, Le Pen qui nous emmerde depuis 50 ans, il faut rappeler quand même que les Allemands, ils ont jugé leur criminel nazi et que nous, leur rejetons, se présente encore à la présidentielle pendant que les flics défilent, pendant que les flics violent, pendant que les bourgeois se gavent, les flics tuent, enfin voilà, bon. Donc Le Pen, le topo, il n'est pas à faire, d'accord. C'est le chiffon rouge qu'on nous agite, mais c'est vraiment un chiffon taché du sang qu'il prétend verser. Et du coup, quand elle nous parle de la justice, bah, ça nous fait bien marrer, parce que l'extrême droite traditionnelle, ils sont là, vachement, histoire de France, les traditions, tatatitatata. Et elle annonce quand même la couleur franco en nous disant « La justice, c'est pas un pouvoir, c'est une autorité ». Donc, grand vide dans la salle.
Et dans le studio.
Ah, c'est quand même une replace intéressante, parce que c'est une remise en cause directe de Montesquieu.
Ça nous le...
La radio Canu, Montesquieu.
Non, mais Montesquieu, c'était ce que c'était, mais c'était quand même un
bras con.
Bon, en tout cas, les fondements de la République telle qu'elle est énoncée aujourd'hui et telle que le FN essaye de faire croire qu'ils ne veulent plus la battre sont dévoilés ici sur Jour du Discours, où elle nous dit qu'elle veut faire de la justice un organe exécutif du pouvoir et non plus une instance indépendante. Donc quand on sait que c'est le parti le plus poursuivi de France, que la plupart de ses têtes d'affiche sont mises en examen, qu'ils se gavent allègrement de thunes et que bon bah voilà, hein, c'est le parti de la mafia, c'est le parti de la violence, de la gruge, eh bien ça fait plaisir de voir qu'ils sont toujours aussi francs du collier et qu'ils veulent abolir la justice en tant qu'institution. Voilà. Et puis les gars du studio, ils pourraient m'aider pour...
On n'est pas là.
Courage.
Et bravo aux gars de Nantes qui montre que la justice essaie de se construire quand même ailleurs et essaie de durer.
On passe au local.
Donc on va faire du local proche On va faire du local régional. Mais on va vous annoncer une très très bonne nouvelle, enfin deux très bonnes nouvelles, mais il y en a une, on reviendra plus longuement la semaine prochaine. En fait, il y a deux nouveaux médias, qui, bon, c'est pas totalement récent, mais je suis pas sûr, pour l'instant, on a fait énormément la publicité, donc ben, on va en profiter. Donc je parlais donc de l'apparition de deux nouveaux médias d'information, l'un sur le web, l'autre papier, et donc qui sont apparus chez les copains de Grenoble et de Saint-Etienne. Donc pour revenir très rapidement, et puis on aura un montage sûrement la semaine prochaine pour parler plutôt de synthé. C'est un journal papier, il s'appelle Le Couac. Donc il y a un journal, si j'ai bien compris, assez participatif et qui est très très intéressant de vous trouver à prix libre, notamment à La Griffe, mais dans différents à La Lutine, je l'ai vu passer, enfin dans différents lieux lyonnais. Et donc qui revient donc sur synthé et sur tout ce qui se passe, et surtout là de façon quand même un peu plus récente et aussi plus, enfin en tout cas moi qui m'intéresse plus, c'est à Grenoble, parce qu'à Grenoble il n'y avait pas grand chose en fait, faut dire ce qu'il y a. Un site internet s'est lancé qui s'appelle le CRIC. Alors le CRIC, c'est communiquer, relayer, informer et combattre contre les systèmes de domination Grenoble et agglomération.
C'est aussi un truc pour changer vos roues.
Aussi, c'est un truc pour changer vos roues aussi.
Et ouvrir les volets roulants.
Ouais, attention, donc si vous voulez faire péter
et
des trucs de vélo.
Des fenêtres aussi.
C'est vous super pratique.
Péter les serrures.
Mais c'est aussi un truc, je crois,
c'est
aussi un centre d'information du CNRS et beaucoup de choses, le CRIC.
Mais... Pas en abuser non plus. Hein.
De quoi?
Ah, que le grand cric me craque.
Mon Dieu, où allons-nous? Bon, écoutez, je vais vous lire en attendant leur test d'intention, qui est quand même plutôt sympa. Donc, le discours médiatique dominant est écrasant, présent partout. Il nous assaille de ces analyses qui entretiennent, entre autres, le sexisme, le nationalisme, le racisme et notamment l'islamophobie, et cherche à dresser les dominés et les exploités les unes contre les autres. Sans emploi et sans employés, allocataires à travers précaires, mal logés, sans abri, descendants d'immigrés et nouveaux arrivants. Bon, ce discours dominant, en souvent basé sur des mensonges, occulte les problèmes sociaux majeurs, ne parle jamais de leurs causes, n'autorise jamais des analyses réellement critiques et ne relaie jamais les luttes sans les manipuler, les marginaliser ou les criminaliser. Nous sommes nombreux et nombreux à ne pas reconnaître notre réalité dans cette marée médiatique et à penser qu'il est urgent de multiplier les sources de contre-information et de relayer des analyses critiques, des témoignages de réalité vécue, des outils et des informations sur la lutte existante. Pour cela, des médias indépendants et alternatifs se développent sous différentes formes, radio, web, papier, pages sur des réseaux sociaux. Si contrairement aux médias de masse, les médias alternatifs grenoblois relaient des luttes et font un travail de contre-information, nous pensons qu'ils ne remettent pas assez en cause le système de privilèges qui est derrière cette organisation des médias. Qui écrit, qui publie, qui enquête, quel accès ont les personnes les plus concernées ou les plus exploitées à ces médias alternatifs, et avec quelle possibilité de s'en emparer concrètement? Selon nous, les médias alternatifs grenoblois ne traitent pas ou suffisamment des luttes contre les racismes d'État, tels que l'islamophobie, la négrophobie ou la homophobie. Des luttes contre le système patriarcal, des luttes anticolonialistes et impérialistes, ou de certaines formes de luttes anticapitalistes, en particulier les luttes de l'immigration des quartiers populaires, les luttes des sans-papiers, les luttes de personnes sans-abri ou mal logées, les luttes féministes non institutionnelles. Sans les personnes concernées par ces luttes, il devient malheureusement logique que certaines réalités et mouvements locaux restent très peu relayés. Nous voulons donc remettre cela en question et tenter quelque chose de différent avec par exemple le principe d'une plateforme qui permet le débat avec des contributrices, les modératrices et toutes les personnes inscrites sur le site, le fait de privilégier la diversité des supports de communication, la mise en place d'ateliers de publication. Nous pensons que ces moyens peuvent nous aider à nous réapproprier l'information, à visibiliser des luttes qui sont invisibilisées par les médias de masse et les médias alternatifs sur Grenoble, et maintenir à distance la posture du journaliste. L'idée d'un site regroupant plusieurs associations et collectifs est de créer des ponts, de se renforcer et de se donner des coups de main, de rendre plus visible chacune des luttes auprès des différentes personnes qui vont venir sur le site, et aussi de permettre des débats contradictoires tout en restant dans un cadre thématique et politique. Le projet est issu de plusieurs réunions avec différentes personnes de différentes associations et collectifs. Nous participons au réseau Mutu qui collectif des ressources, favorise l'entraide, produit à l'échelle de plusieurs villes un discours contre-hégémonique. Bon, désolé, c'était un peu long, mais en résumé, c'est un super média donc qui va apparaître pour ceux qui connaissent, qui est proche, donc comme c'est cité à la fin de Rébellion, donc qui appartient donc à ce réseau Mutu, qui est un réseau national de sites alternatifs. Et donc, si vous êtes intéressé pour aider, pour écrire sur site, bah, contactez-les. Donc, leur site, c'est CRIC, C-R-I-C. Tiré du milieu grenoble.info. Donc, comme Rébellion, c'est un site participatif, donc n'hésitez pas à proposer des articles, à le faire vivre pour que l'information alternative se développe sur Grenoble.
Bientôt sur l'internet donc. Et oui, on va vous parler du meeting de dimanche. Donc dimanche se tenait un meeting contre le racisme, les violences policières, la hogra, la chasse aux migrants et migrantes. Un meeting qui devait déjà avoir lieu 15 jours auparavant à Vouvant-Velin, à la salle Victor Jara. qui n'a pu s'y tenir, puisque quelques jours avant, la mairie PS de Vouvant-Velin a fait pression sur la salle pour que la salle ne soit pas attribuée aux organisateurs de ce meeting. Et donc, les organisateurs de ce meeting ont dû décaler à 15 jours le fameux meeting. Et ayant trouvé une salle, en l'occurrence la Maison des Passages dans le 5e arrondissement, ça présentait un petit peu un risque, puisque le 5e arrondissement est quand même assez noyauté par les fachos qui sévissent dans le quartier et qui mettent un point d'honneur à faire en sorte que ce soit la merde. Et ça n'a pas raté. La nuit avant, la nuit de samedi à dimanche, il y a eu une agression du lieu, la Maison des Passages. Donc à coups de marteau et de pierre, ils ont brisé des vitres, collé des stickers de Jeunesse Identitaire et du GUD. Donc bien entendu, en signant un peu leur acte, la Maison des Passages donc a été un peu réticente à accueillir le meeting, craignant d'autres violences. Là-dessus, les gens se sont quand même rassemblés devant le lieu, le meeting ne pouvant s'y tenir. Des policiers étaient présents et on a quand même, il y a des gens qui ont essayé de voir ce qu'on pouvait faire, trouver d'autres lieux. Et l'idée a surgi de faire ça sur les quais de Rhône à Guillotière, puisqu'il faisait assez beau et qu'on aurait pu le faire en plein air avec la sono à pile. Mais la préfecture, au bout de trois quarts d'heure, a donné un avis négatif en disant que ça pouvait présenter des risques de troubles à l'ordre public et donc elle a refusé ça. Donc heureusement les Kurdes ont accueilli dans leur local la maison de la Mésopotamie le meeting. Environ un peu plus de 100 personnes ont pu rentrer dans ce lieu, donc c'est vrai comme des sardines parce que c'est vraiment, ça correspondait pas vraiment à la taille qu'il fallait. Et mais par contre, pour y avoir assisté, je trouve que c'était un meeting de très haut niveau avec des interventions très intéressantes, notamment de Omar Slaouti du collectif Aliziri ou Remata Dieng, donc de la famille de je sais comment il s'appelait, Lamine Dieng, qui était décédé aussi du fait de violences policières, qui elle est du collectif des Vies Volées. Il y a eu aussi une intervention de Julien Salin du journal Acrimed qui a axé son intervention sur les médias et sur le traitement des médias de ces violences policières, de ces bavures et de ces faits divers, donc dans les médias qui sont en fait des choses systémiques et voilà. Ensuite, il y a eu une intervention aussi, on est passé à l'international après, comme ici, avec Youssef Boussouma qui nous a parlé du thème de la thématique de la Palestine. Bon, bref, beaucoup d'interventions très intéressantes et on vous rappelle le meeting du 19, pas le meeting, mais la grande marche du 19 mars à Paris. Donc des cars seront affrétés et il faut gratos. Qu'il y ait du monde. En principe, gratos, j'espère. Mais s'il faut participer à hauteur de quelques petits euros, peut-être que voilà. On passe au sujet suivant.
Alors le sujet suivant pour conclure en fait sur le local, ben, on va vous parler en fait, pour l'instant on vous a quand même pas mal parlé de problèmes de pauvres, mais là moi pour une fois on va vous parler de problèmes de riches.
Non, ils ont des problèmes les riches à part les pauvres.
Mais écoutez, il faut croire
qu'ils se plaignent tout le temps.
Mais oui, mais ils continuent à se plaindre, c'est ça qui est magique. C'est en fait je relais une information de ce qui est pas forcément c'est une de nos sources d'information qui quand même Lyon Mag en fait pose la question de qu'est-ce qu'a fait l'UNI de son argent. Donc l'UNI, pour resituer, c'est le syndicat étudiant de droite, qui est majoritairement basé à Lyon 3, et en fait, bah, là, on se pose la question de ce qu'ils ont fait de leur argent. Mais de quel argent on parle? Bah, on parle en fait du fait que depuis que Wauquiez est arrivé, leur subvention a été multipliée de façon incroyable. Ils ont touché plus de 50 000 euros de la part de la région pour leur activité courante, et le truc, c'est que jusqu'à maintenant, bah, une petite enquête de Lyon Mag prouve bah, qu'on ne sait pas où est passé cet argent.
Des emplois fictifs,
certainement. Faut demander au GUD ou...
Il est possible que l'argent ait servi
à une boutique de fringues dans le 5e.
Parce que pour faire leur sticker tout pourri et leur affiche Maréchal Nou, voilà.
Ouais, mais là, 50 000 euros, tu recouvres la ville, quoi.
Ils sont assez pigeons pour avoir payé 1 euro le sticker. Hein, les
pas d'insultes.
Ah, c'est possible aussi. Non, mais en attendant, Lyon Mag continue à se poser la question et cherche à voir où est l'argent. L'UNI se défend en disant qu'ils ont organisé 3 formations pour 3 fois 45 étudiants pour leur apprendre à faire leur CV. Ce qui fait cher la formation. D'une heure et demie, si oui, enfin 15 000 euros à l'heure, je pense qu'une aide aux trois conducteurs plaisir. Donc, soit tout leur argent est parti là-dedans, soit en fait, bah, l'UNI soit se paie des coups ou se thésaurise peut-être, on sait jamais, mais en attendant, c'est donc un nouveau problème de riche, et que fait l'UNI de son argent?
On va passer au dossier, donc sur la France-Afrique ce soir, en compagnie de nos. reporter de choc, nos historiens reporters de choc.
Les reporters, et puis, voilà.
Donc un dossier sur notamment l'interventionnisme militaire français en Afrique sur ces dernières années, puisque vous le verrez, vous l'entendrez, jamais l'armée française n'a été aussi présente en Afrique que ces 6 dernières années, et jamais l'armée française n'a commis autant d'exactions que ces 6 dernières années. Et avant ça, on va d'abord passer à un petit morceau de Kazé, dans nos histoires. Voilà.
Mon présent et ma souffrance, être au fond du précipice ou en surface, mais en tout cas sur place et haï à outrance. Mes cicatrices sont pleines de stress, pleines de rengaines racistes qui m'oppressent, de bleus, de kiss, de peine et de chaîne épaisse pour les indigènes à l'origine de leur richesse. On nous agresse, donc on agresse. Ils ont battu des nègres, violé des négresses, donc nos plaies sont grosses et mon crâne en dos, angoisse et morale en baisse dans mon blocus. C'est le blocus sur nos vies en plus. On signale nos pédigrés dans nos cursus. Comment veux-tu que ma colère cesse quand le colon est cruel comme le SS? Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. CMU et RMI dans mon roman. Gros nuages et orages dans mon climat. Barbelés, parabole au panorama. Des comas et des ulcères à l'estomac. Des gosses sous trauma et qu'on n'a pas promu. Et ces pays qu'on vient paumer au PMU. Et l'économie où le chômeur est un ennemi. Et les fins de mois crevés dans l'anonymat. Magasins fermés, pharmaciens armés. Parents autant alarmés que désarmés. Des regrets, des reproches et des remords. Et des taux d'antidépresseurs records. Des sorties de cure et puis ces camps obscurs où se procure la drogue dure pour une piqûre. C'est sans recours ni issue de secours, sans regard de compassion pour nos parcours. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Rien à foutre de vivre pour tenir les poutres et voir à ma fenêtre malheur et mal-être. Ne connaître que ces remparts qui m'ont vu naître, m'ont vu grandir et puis me verront disparaître. Et c'est les nôtres qui sont au centre pour subir la peur ou la faim au ventre. Fléchir à chaque fois devant chef et maître et réfléchir à tout ça le soir quand ils rentrent. On nous maltraite de 20h à 20h30. Nos vies font les gros titres dans leurs chapitres. Les journalistes flippent et leur cœur palpite. S'inquiètent qu'on fasse sauter sous tes cockpits. Y'a pas d'espoir dans mon périmètre. Ma cote est nulle à leur applaudimètre. Tu peux me croire, faire l'étonner, sourire avec ironie. C'est le point de vue des damnés des colonies. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas d'espoir. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires. Tu peux me croire, y'a pas de victoire. Y'a que la douleur à voir dans nos histoires.
vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
102.2.
Et c'était Kazé, la grande Kazé, dans nos histoires, pour introduire un sujet contre la colonisation et le racisme en général. Et sans transition, on écoute tout de suite le grand général de Gaulle.
Déjà, au moment où commençait la présente guerre mondiale, apparaissait la nécessité de placer sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de nos territoires africains, celles du progrès des hommes qui y vivent et celles aussi de l'exercice de la souveraineté française. Est-il besoin de dire que la guerre présente n'a fait que précipiter l'évolution?
Mais nous sommes sûrs, aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Voilà ce qui est le devoir de la France ici.
Bravo, mon général.
Donc, c'était le grand Charles pour les intimes, hein, puisque les Gaulliens, les gaullistes parlent du grand Charles. Et donc, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en début, puisque sans Charles de Gaulle, sans lui, la France-Afrique n'aurait peut-être jamais lieu. En tout cas, grâce à lui, elle a pu briller de tous ses feux à partir des indépendances. Donc là, ce discours, il a lieu en 1944 et il commence déjà à mettre en avant publiquement les prémices de velléité indépendantiste et d'indépendance sur les territoires. Sachant que entre 45, 46 et 47, il y a plusieurs massacres dans les colonies françaises, notamment à Madagascar et en Algérie. Donc on voit déjà le double discours, ou le discours officiel public qui met en avant les indépendances et ce qui se passe réellement sur le terrain, c'est-à-dire des massacres et le maintien des dictatures. Alors c'est ce qui fera entre 58 et 61, quand tu auras les indépendances des anciennes colonies autres que l'Algérie, puisque à ce moment-là, il est empêtré dans la guerre d'Algérie, et donc il y a des indépendances, notamment dans l'ancien empire de l'AOF, l'Afrique de l'Ouest française, et ce type de discours que De Gaulle met en avant, et en toile de fond, avec un certain Focard,
Jacques Focard,
il met en place
le grand Jacques Focard,
d'ailleurs il était petit, plus petit que Charles, mais toujours est-il, ils mettent en place tous les deux des réseaux de soutien aux dictatures qu'ils mettent en place, qu'ils démettent, ils soutiennent rébellion ou matent des rébellions pour les intérêts spécifiques du capitalisme français et de l'État français. Alors ces réseaux qui sont très conséquents sous De Gaulle perdurent avec Giscard et Pompidou. Quand Mitterrand arrive au pouvoir, Mitterrand met en place ses propres réseaux, c'est-à-dire qu'il y a deux réseaux parallèles qui se mettent en place, des réseaux toujours france-africains qui soutiennent les colonies, les anciennes colonies, pardon, les dictatures, etc. etc. Après, on a Chirac et Charles Pasqua qui en remettent une grosse couche, une grosse tartine, et c'est d'ailleurs pendant cette période-là que le terme France-Afrique est créé par un certain François-Xavier Verschave qui dénonce les réseaux france-africains, les raisons occultes et la mainmise de la France sur les territoires occupés.
Oui, non, après sur les réseaux de Focard, il reste toujours, même si Mitterrand met en place des réseaux parallèles, il reste toujours aussi prégnant en Afrique. En réalité, aujourd'hui, l'héritage de la France-Afrique, ils sont bien celui des réseaux Focard. C'est la cohabitation qui va mettre un peu à mal ces réseaux-là.
Donc il y a des réseaux parallèles qui se mettent en place, mais ce sont des réseaux France-Africains.
Notamment par le recyclage de l'armée en Algérie.
Notamment oui, par ce biais-là. Et donc on arrive à un certain Nicolas Sarkozy, pour aller vite, puisque là on voulait surtout présenter l'intervention militaire française de ces dernières années. Donc Sarkozy, qui à Dakar, dans son discours en octobre 2007, donne sa position. « Je ne suis pas venu, jeune d'Afrique, pour pleurer avec vous sur les malheurs de l'Afrique, car l'Afrique n'a pas besoin de mes pleurs. L'Afrique a sa part de responsabilité dans son propre malheur. » Ou encore « La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. » Ou, pour terminer, « Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez rentré dans l'histoire avec un grand H. »
Alors que l'histoire lui est bien rentrée dedans.
Alors que l'histoire, avec un grand H, lui est bien rentrée dedans. Et donc, c'est sous Sarkozy que l'interventionnisme militaire là, s'accélère pour ces dernières années. Et la première, c'est en Libye, avec l'opération Harmattan. Alors que Kadhafi était reçu quelques mois auparavant en grande pompe à l'Elysée.
À Chambord.
Voilà, et à l'Elysée également. Se basant sur les printemps arabes, après cette onde de choc, la diplomatie française se montre active concernant la crise libyenne. Alors même que l'insurrection bat son plein, la France est le premier pays à reconnaître en mars 2011 le CNT, le Conseil National de Transition, comme le représentant officiel du peuple libyen. Et ce geste est plus qu'un symbole puisqu'il montre clairement le souhait d'un changement de régime à Tripoli. Donc Kadhafi se prend petit à petit les foudres de la France sur son régime et pour ce faire, la France va être obligée d'instrumentaliser et de mettre en scène une urgence absolue d'intervention. Et c'est de cette instrumentalisation médiatique en mettant en avant des offensives des forces loyalistes bien plus disproportionnées par rapport à la réalité que la France intervient. Les raisons de cette intervention, toujours la même, hein. Là en l'occurrence, c'est obtenir une plus grande part de la production du pétrole brut libyen, puisque après l'intervention, la France passe de 15% d'importation du pétrole brut libyen à 35%. Il y a aussi accroître l'influence française en Afrique du Nord, etc., etc. Et puis il y a aussi quelque chose, il y a un contentieux entre Kadhafi et Sarkozy, qui est notamment l'affaire des financements de campagne occultes. Ce qu'on peut retenir de cette intervention, outre effectivement le pétrole brut libyen et les contentieux Sarkozy-Kadhafi, c'est la brutalité, la force de frappe impressionnante qui a été mise en place en Libye avec l'armée de l'air, la marine nationale, plus de 4200 soldats officiellement mobilisés pour cette opération. Après 7 mois de combat, évidemment, Kadhafi et son régime tombent. Le renversement de Kadhafi par la France et ses alliés, l'OTAN et ses alliés arabes, aura de profondes conséquences en Afrique et notamment au Mali et au Niger. La deuxième intervention sous Sarkozy, c'est l'opération Licorne, l'aboutissement d'une opération en Côte d'Ivoire. En 2002, suite à l'interposition des troupes françaises en Côte d'Ivoire, déjà, on est en 2002, entre l'armée ivoirienne et une rébellion, la Côte d'Ivoire est divisée. En décembre 2010, les tensions se cristallisent autour du résultat du second tour de l'élection présidentielle, opposant un certain Laurent Gbagbo, soutenu par les socialistes, notamment en France, puisqu'il faisait partie de l'Internationale socialiste, et Alassane Ouattara, un ancien du Fonds monétaire international et ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire de 90 à 93, période pendant laquelle il applique les plan d'ajustement structurel. La France soutient Ouattara du début à la fin. Elle utilise pour ça une manière monétaire pour asphyxier Gbagbo, notamment par l'utilisation de l'asphyxie monétaire du franc CFA qui est détenu par la Banque de France. Elle utilise évidemment l'interventionnisme militaire la fin du régime est un carnage. Ce sont des combats qui sont terribles, qui sont réellement terribles en Côte d'Ivoire et en fin 2011, la France met en place Alassane Ouattara. C'est toujours d'ailleurs Alassane Ouattara qui est présent en Côte d'Ivoire. Pour terminer, dernière intervention sous Sarkozy, c'est l'opération Sabre, qui était un déploiement secret, qui a été ensuite mis en avant à la fin du quinquennat Sarkozy. Et les membres de Sabre qui sont actuellement au Niger, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans tout un tas de pays comme ça. Donc quand François Hollande arrive au pouvoir en 2012, il a un dispositif militaire opérationnel qui quadrille étroitement toute la sous-région, notamment celle du Sahel.
Et on écoute tout de suite d'ailleurs son premier discours en Afrique.
J'effectue ici à Dakar mon premier déplacement en Afrique depuis mon élection à la présidence de la République française. Ce choix est celui de l'histoire, mais il est surtout et avant tout le choix de l'avenir. L'histoire que nous avons en commun, elle est belle, elle est rebelle, elle est cruelle. Je ne suis pas venu ici à Dakar pour montrer un exemple, pour imposer un modèle, ni pour délivrer une leçon. Je considère les Africains comme des partenaires, comme des amis. Mais l'amitié crée des devoirs. Et le premier d'entre eux, c'est la sincérité. Je veux leur parler librement. directement, le faire sans ingérence, mais avec exigence. La démocratie, elle vaut pour elle-même, partout. Et aucun pays, aucun continent ne peut en être privé. Je pense particulièrement, en ce moment, au Mali, victime de groupes extrémistes qui font régner la terreur au nord. C'est votre sécurité qui est en jeu, mais c'est aussi la nôtre. La sécurité de l'Afrique, de l'Ouest, mais c'est aussi celle de l'Europe, du Sud. Cette Europe qui connaît la valeur inestimable de la paix, pour laquelle elle a d'ailleurs obtenu aujourd'hui même le prix Nobel. Eh bien, cette Europe qui a fait la paix, qui veut la paix, cette Europe, elle doit aussi faire la paix, vouloir la paix en Afrique, chaque fois qu'il y a une mise en cause, un conflit, un terrorisme, elle sera derrière vous. Mais c'est vous, les Africains, qui aurez seul la responsabilité de décider ce qui est bon pour votre propre sécurité. Le futur de l'Afrique se bâtira par le renforcement de la capacité des Africains à gérer eux-mêmes les crises que le continent traverse. Le temps de ce qu'on appelait autrefois la France-Afrique est révolu. Il y a la France, il y a l'Afrique, et il y a le partenariat entre la France et l'Afrique.
C'est-à-dire la France-Afrique.
Exactement. Du coup, ça, c'est le discours que Hollande y prononce le 12 octobre 2012 à Dakar, au Sénégal. C'est le premier discours qu'il va prononcer en Afrique. Donc, dans ce discours-là, il explique donc, que le temps de la France-Afrique est révolu, comme l'avaient fait en réalité ses prédécesseurs Sarkozy et Mitterrand. En fait, il assure déjà, il se contredit en fait, hein, parce qu'il assure déjà les perspectives de sa prochaine intervention au Mali, qui va arriver très vite, puisqu'on est le 12 octobre, et que l'intervention, elle débute le 10 janvier 2013. Donc, pour le moment, il se met derrière l'égide de l'Europe pour justifier cette intervention. On verra, en fait, après, que la France va y aller un peu seule. Il se sert déjà des mêmes ressorts que ses prédécesseurs pour justifier cette future intervention. Donc, en parlant du combat contre le terrorisme, pour la démocratie, voilà, il sert toujours des mêmes prétextes, hein, complètement éculés, qu'on a entendu depuis De Gaulle pour justifier l'ingérence française. Alors même que dans son discours, déjà, il donne les jalons de sa politique, qui est une politique économique aussi. Il dit, c'était pas dans les extraits qu'on a sélectionnés, mais il dit par exemple, aucun enjeu planétaire ne pourra se faire sans l'Afrique. Toutes les réponses essentielles passent déjà par votre continent, l'économie, les matières premières, l'environnement, l'énergie, la gouvernance mondiale. Donc on comprend immédiatement pourquoi la France a toujours intérêt à rester le gendarme en Afrique et à agir, y compris complètement seul, c'est-à-dire en dehors des cadres internationaux.
Voilà. Comme au Mali.
Exactement. Et toujours la même sémantique de paix, alors même qu'on se prépare à faire la guerre. C'est-à-dire qu'il dit l'Europe doit assurer la paix tout le long de son discours. Voilà. En réalité, en disant ça, c'est dire l'Europe doit faire la guerre en Afrique pour maintenir une paix.
Pour protéger l'Afrique.
Exactement.
Comme De Gaulle disait que... Ils faisaient la guerre pour qu'ils puissent s'occuper de leurs affaires.
Donc tout en disant voilà, que ce temps est révolu, il montre déjà dès le début de son mandat qu'en réalité c'est tout l'inverse qu'il va faire. On va voir par la suite, de toute façon, sa politique elle va se durcir, y compris sémantiquement.
Et il va faire des bonnes choses quand même. Non.
Et notamment, il intervient, donc, comme je disais, à partir du 10 janvier à Bamako, c'est l'opération Serval qui commence.
Donc l'opération Serval, elle se fait en plusieurs étapes, mais évidemment la première étape c'est... de dire que effectivement les groupes de lutte armée que sont le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, un groupe Touareg indépendantiste, ou les groupes de type ACMI, Ansardine ou le Murao à l'époque, qui sont des groupes plutôt même carrément fondamentalistes musulmans, il faut un prétexte pour intervenir. Et donc ce prétexte, il y a toujours les services français qui sont là pour les trouver, hein. Donc le service de renseignement français repère des mouvements de pick-up qui descendent sur Gao, une ville clé du centre du pays. Mais il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut utiliser les médias et il faut surestimer la menace, comme en Libye. Et donc, sous couvert d'antiterrorisme et du respect de l'intégrité du territoire du Mali, la France se lance dans la reconquête du pays à partir de janvier 2013. Au plus fort de son action, ce sont pas moins de 6482 personnels qui sont mobilisés sur ce théâtre. Cette offensive militaire, elle s'accompagne d'une offensive médiatique d'une ampleur rare. La rhétorique contre le terrorisme est systématique. D'ailleurs, ça permettra à la France, cette intervention au Mali, de faire la pub de ces certains Rafales. Vous savez, ces avions qu'ils n'arrivaient pas à vendre avant, ces avions militaires fournis par Dassault. La France mène d'ailleurs à ce titre une guerre d'une rare violence. L'objectif assumé par le plus haut est toujours le même, le plus haut sommet est toujours le même. Et la France finit par s'allier avec le MNLA alors qu'elle le combattait au départ, finalement au nord du territoire malien, pour se créer un sanctuaire au cœur de la zone de tension. Et là, on va passer à l'intervention militaire suivante.
Et du coup, on écoute juste Hollande, juste au début de l'intervention au Mali.
Quand la France est en Afrique, elle ne cherche pas à exercer une influence, à peser sur les choix politiques d'un pays, et encore moins à capter ses ressources. Elle n'est là que pour participer à des opérations de maintien de la paix et pour travailler avec les Africains au renforcement de leurs capacités de défense. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, ici les représentants de toute l'Afrique, vous pouvez être sûrs que la France sera toujours à vos côtés, parce que c'est son histoire, parce que c'est aussi son avenir, parce que votre avenir est notre avenir. Je vous l'assure, je n'oublierai jamais les liens que nous avons pu tisser, personnels, humains, politiques, et la confiance que nous avons établie ensemble. Vive l'Afrique et vive la France.
Bon, on a eu un petit souci, mais du coup, ça, c'est le discours qu'il prononce le 2 février, donc juste après à peine un mois après le début de l'intervention. Il a déjà gagné, en fait, les batailles essentielles au Mali. Il est accueilli apparemment
comme
un roi. Et effectivement, c'est ça. Là, tout de suite, on sent la différence dans son discours. Il agit, il parle en véritable chef de guerre. Il est désormais réellement le président de la France-Afrique. Il dit d'ailleurs à la fin de son discours, c'est pareil, c'est pas dans les extraits qu'on a choisis, mais il dit à la fin de son discours, c'est le jour le plus important de toute ma carrière politique, c'est-à-dire que c'est un jour plus important que son élection à la présidence de la République française. Donc il se comporte véritablement en chef militaire, puisqu'il dit, comme la plupart des grands chefs qui ont fait la guerre, que le plus important pour un homme politique, c'est de gagner une guerre, c'est même pas d'arriver au pouvoir. Donc là, il a complètement pris pour lui toute la politique france-africaine de ces dernières années. Il est enfin dans son rôle de grand chef d'État qui fait la guerre et il va continuer les interventions.
Et c'est là qu'il lâche les chiens parce qu'arrive l'intervention Barkhane, l'intervention qu'on pourrait appeler l'interventionnisme sans frontières au Sahel, puisque Serval était qu'une opération coup de poing visant à libérer le nord du Mali, alors que l'opération Barkhane, c'est une implantation au-delà des frontières du Mali, du Niger, etc., puisque c'est en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad que fusionnent tout un tas d'opérations, dont certaines vieilles de 1986 comme au Tchad, pour former l'opération Barkhane. Donc Paris façonne ainsi à sa main la sous-région, créant une instance relais systématique dans toute la région. Au début, il y a 3000 militaires. Barkhane installe son centre de commandement au Tchad, mais après ça s'étend très très vite, hein, en 2013-14, puis 15 au Niger. Et pourquoi au Niger? C'est parce qu'il y a l'industrie nucléaire française, et le Niger est l'un des principaux fournisseurs d'uranium de l'industrie nucléaire française, et qu'il y a un détachement spécifique qui est mis là-bas. Pour aller assez vite sur Barkhane, hein. Barkhane, actuellement, ça existe encore. L'opération Barkhane est encore présente dans tous les pays que je viens de citer. Et derrière, ça a permis de favoriser une dernière intervention sous François Hollande. C'est l'opération Sangaré en Centrafrique. Je vais aller très vite, mais elle est terrible, puisque la France va instrumentaliser des conflits ethno-confessionnels d'un côté musulman, d'un côté chrétien, et jouer avec ses forces, hein, la Séléka et les forces anti-Balaka, Elle va jouer un double jeu permanent avec plus de 2000 soldats déployés.